Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
On va démarrer avec un extrait des Grandes Gueules ce matin. Pensez-vous que ça va péter? Entre l'explosion des prix et les projets de réforme à l'Assemblée, la colère sociale monte. Hier, face à de jeunes Français expatriés en Thaïlande, Emmanuel Macron a fait part de son inquiétude concernant de nouvelles protestations dans la rue. Et pas de doute, pour l'éditeur de BD Mourad Boudjelal, ça va prochainement péter.
Je m'en fous pas, parce que ça va péter.
Il est lucide alors, le président.
C'est évident que ça va péter, je veux dire. Heureusement qu'il y a, l'alibi de la guerre en Ukraine actuellement, parce que ça a permis, ça se voit dire.
Ça dilue.
Mais aujourd'hui, dans le monde, dans la France d'aujourd'hui, pour celui qui vit, on est en absurdie, quoi. On est dans une dinguerie au niveau des prix. Aujourd'hui, on est en train de se demander simplement, bientôt le prix de pâte, il sera à 25 €, quoi. Et on trouvera finalement sur ben c'est bien, il est juste passé de 24 à 25, on a limité la casse, quoi. Des augmentations de prix à deux chiffres, ça paraît pas beaucoup. Ça va péter à un moment. Je veux dire, ça va péter, c'est obligé. On est en train de paupériser le pays complètement. Je pensais pas qu'on puisse arriver à un tel délire sur les prix. Voilà, et péter, ça va péter. La seule problématique, c'est quand. Mais ça va péter grave.
Ça va péter, Péricot.
C'est un thème qui a été recensé 100 000 fois depuis 10 000 ans. On n'a pas les paramètres déclencheurs.
Oui, c'est vrai.
C'est tout.
Enfin, alors, on les a, mais on ne sait pas lesquels.
Disons qu'on est d'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a un phénomène.
Parce qu'ils sont là. Hein.
Non, mais on sait. Les Gilets jaunes est un tournant socio-historique. On sait que dans une société de consommation plus ou moins confortable, et en France, il y a une catégorie de gens qui sont suffisamment malheureux pour en venir là. Aujourd'hui, par rapport à 2018, les conditions sont encore pires quand on fait le bilan économique, et ça tient. Alors, il y a eu la maladie qui fait que les gens se sont dit, oulala, il y a plus grave que la précarité. Il y a le virus,
COVID.
La maladie, le COVID. Un risque de guerre nucléaire à nos frontières. Donc, bon, mais ça suffit pas. Et on sait très bien que les grands chaos qui ont été déclenchés ont souvent été déclenchés par des événements mineurs, insignifiants ou aléatoires qui ont mis le feu aux poudres. Donc, oui, on est sur le volcan. Oui, on sait que la lave est pas loin, on entend le grondement. Non. Quand est-ce que l'éruption se produira? Ça, personne aujourd'hui, ni sur le plan politique, ni sociologique, ni économique, n'a de soucis. Par contre, je sais que ce gouvernement a quand même le talent de déclencher les colères. Je leur fais confiance pour nous faire un petit feu d'artifice. Hein.
Oui.
Ils ont le logiciel.
Ils essayent beaucoup, en tout cas.
Ils font tout pour.
Ah oui, c'est ça.
Mais ça va finir par marcher, rassurez-les. Ça va aboutir.
Un jour ou l'autre, ils réussiront.
Il a raison de s'inquiéter, Emmanuel Macron, Pierre-Edouard.
Alors, il a raison de s'inquiéter, mais en fait, ce qui serait bien, c'est que son inquiétude crée des réponses politiques intéressantes, intelligentes et utiles. De même, moi, fondamentalement, si ça pète, ça me déplaît pas forcément, à condition que ça ne pète pas de manière désordonnée, sans organisation, à condition que ce soit bien un mouvement social collectif avec une vraie vision politique. Quand je vois l'état des partis politiques, quand je vois l'état des syndicats, quand je vois l'état des corps sociaux, je suis inquiet parce que si c'est une explosion légitime de plein d'individus qui partent dans tous les sens, fondamentalement, l'échec politique du mouvement des Gilets jaunes, je partage ce que tu viens de dire, mais il y a un échec politique quand on regarde très bien l'aboutissement.
C'était pas géré.
C'est juste, oui, et parce qu'ils ont refusé que ce soit géré, parce qu'en face, il n'y avait aucun corps social qui était prêt à le gérer, parce qu'au départ, les syndicats ont été méprisants à leur égard, considérant que c'était une bande de ploucs qui n'organisait donc des fascistes, puisque si t'es pas un syndicat, t'es un fasciste. Donc, ils ont rejeté. Quand ils ont voulu se revenir, évidemment, ils se sont pris des claques. Donc, le vrai sujet, effectivement, il est là, c'est quelle réponse politique ou quelle nouvelle ligne politique si un mouvement social émerge. Et après, effectivement, attention, parce que on parle effectivement aujourd'hui, on est bien pire qu'à l'époque Gilets jaunes et ça ne bouge pas. N'oublions pas ce qui s'est passé en Grèce où globalement, le corps social a tenu quand on voit ce que les Grecs se sont pris dans la tête.
C'est vrai.
Nous, à côté, c'est de la rigolade et ça a tenu. La capacité de résistance du système dans lequel on vit est assez stupéfiante.
Alors, juste un mot sur l'échec politique, je suis pas sûr. Je pense que la majorité relative à l'Assemblée nationale aujourd'hui est une conséquence directe des Gilets jaunes qui a créé un mécontentement.
C'est vrai.
Emmanuel, est-ce que vous avez peur que ça explose?
Moi, j'y crois pas, en fait. J'arrive pas à y croire. Pourtant, j'entends tout ce qui se dit et je serais effectivement peut-être pas mécontente si ça pèterait, mais je sens pas les Français partis pour ça. Il y a tellement de choses qui nous tombent dessus, qui nous plombent, et notamment des problèmes d'inflation, des problèmes de budget.
On a la tête dans le guidon.
Je sens pas.
Bah, c'est déclencheur, ça, au contraire.
Trompé. Mais tu sais, pas. tu disais, on sait pas quels sont les éléments déclencheurs. Et c'est pas toujours des incidents. Je veux dire, quand en Iran, t'as une jeune femme qui se fait assassiner parce qu'elle a une mèche qui dépasse du voile, quand le printemps arabe démarre parce qu'un jeune marchand de primeurs est mort.
Simol
par le feu, exactement. Donc effectivement, c'est parce qu'elles sont les éléments déclencheurs. Mais là, d'accord, il faut qu'il y ait une allumette et qui allume la mèche. Mais je vois pas la mèche en fait. Je vois pas la bombe. Enfin, je vois la bombe, mais je les sens pas moi les Français.
On les a jamais vus dans l'histoire.
On va voir.
On les a jamais vus dans l'histoire.
C'est vrai.
Ouais, mais là pour l'instant, regarde, il y a eu des occasions.
Des appels.
Et des tentatives. Et des tentatives. Et Mélenchon.
Mais ça n'a pas du tout marché.
Parce que c'est pas un bouton.
Ça a été un
pchit énorme. Pas un bouton sur lequel
l'univers syndical n'a lancé mai 68.
Non.
On veut remonter un mouvement qui, quoi qu'on en pense, mais aucun un vrai mouvement social collectif.
Auquel débat. C'est parti d'une université où on a refusé la mixité des dortoirs à des filles et des garçons.
C'est un scandale d'ailleurs.
Mais ils n'ont pas refusé, ils n'ont pas participé aux Gilets jaunes non plus.
Non, mais ils ont même refusé en même temps mai 68. C'est juste pour la communiste en mai 68. C'était moyen. Enfin bref, on va pas.
Moi, j'y crois pas.
Même la Bastille, c'est un accident.
Même en 36. Effectivement, même en 36, n'oublions pas, il faut savoir finir grève. Enfin, le Parti communiste, puis à l'époque, en 36, c'est quand même autre chose qu'aujourd'hui, qui est obligé de dire, il va quand même falloir finir la grève, les gars, parce qu'il faut qu'on prenne le boulot. Donc...
Charles Matin, ce matin, va-t-on manquer de médicaments cet hiver? C'est l'alerte lancée par l'Agence nationale du médicament qui déclare qu'il y a déjà une pénurie d'amoxicilline, un antibiotique très utilisé pour les enfants, en cause des problèmes de production dus au coût de l'énergie, et ça risque de durer. Selon Pauline Londex, elle est la cofondatrice de l'Observatoire de la transparence du médicament.
Certains sites ont fermé pour ces raisons. Et tout le monde sait que la crise de l'énergie, on n'en voit pas forcément la fin. Donc c'est ça notre grande inquiétude, c'est-à-dire on aura des stocks peut-être qui vont arriver début 2023, mais est-ce que ce sera suffisant et est-ce qu'on risque pas d'avoir d'ici là beaucoup d'autres pénuries sur beaucoup d'autres médicaments essentiels?
Deux ans de plus.
Péricot, évidemment ça va de pair avec la désindustrialisation de la France dont vous parlez tant.
C'est la conséquence directe, merci de le signaler. J'avais oublié.
J'avais oublié ce que je pense.
Il faut que la réaction ait raison.
Non, mais attendez, je suis désolé, vous tournez ça en dérision. C'est...
Mais je ne tourne pas ça en dérision du tout. Je tiens à dire, vous avez raison.
Que vous
c'est pas dingue.
Mais pas du tout. Non. En plus, pour l'amoxicilline, c'est un médicament ORL, il y a eu des bronchiolites, c'est ça qui a engendré. S'il n'y a pas d'amoxicilline cet hiver, pour des maladies. Mais le fait, c'est d'en arriver là. Vous vous rendez compte, ce sont des carences. Ouais. Mais on se croirait au 19e siècle.
Et
un jour, c'est le pain qui va manquer. Un jour, ça va être le sucre, ça va être l'huile. Vous voyez, on est dans des carences basiques. Et l'industrie pharmaceutique, c'était un des fleurons de l'économie française. Ouais. On était parmi les meilleurs du monde. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors oui, je vais vous ressortir ma litanie. On a désindustrialisé, c'est la mondialisation. Moi, j'étais persuadé que l'Union européenne, l'Europe à laquelle je crois toujours et pour laquelle je suis infirmitant, pas celle-là, je pensais que ça allait nous protéger de ça. Au moins ça, voyez. Non. Et puis non, et on voit bien que même sur le Covid, alors c'est vrai que ça a pu servir à un moment donné, mais ça a aussi été un retard à la vaccination. Donc je comprends pas comment il n'y a pas une meilleure cohérence de toutes ces puissances économiques en Europe. Ce sont des grands pays. L'Allemagne, quand l'Angleterre, quand elle y était, on va manquer de médicaments, de d'antibiotiques.
On a délégué notre santé à d'autres. Et l'amoxicilline, alors franchement, tous les enfants,
bien ce qui s'est passé.
Tous les parents qui ont des gamins ont des bouteilles de sirop. Parce que moi, à chaque fois que j'allais voir le médecin pour mes gamins, c'est à chaque fois ce qu'on me prescrivait, le sirop, donc amoxicilline pédiatrique. Et là, je suis en train de me dire, j'espère qu'il m'en reste une ou deux bouteilles, mais je ne suis pas sûre. Et voilà, en plus, effectivement, elle avait raison, la dame, de dézoomer de l'amoxicilline, il y a ça. Mais ça va toucher d'autres médicaments.
Il va y avoir le reste, en fait.
Ils n'auraient pas dû donner le nom du médicament.
Et puis du coup, c'est déjà le cas, parce que moi, ma femme me disait que hier, à la sortie de l'école, c'était déjà un des gros sujets de discussion, que du coup, les parents font le tour des pharmacies, que du coup, il y a déjà des pénuries dans les pharmacies, mais là, c'est le phénomène, quand on annonce une pénurie, on se consomme et elle arrive...
Il faut une ordonnance. Ça veut dire qu'il y a des médecins complaisants qui vont faire de fausses ordonnances pour faire du stock d'amoxicilline.
Il faut des ordonnances renouvelables. T'as des ordonnances effectivement renouvelables, donc tout le monde effectivement en cherche. On va peut-être demander aux pays qu'on appelait du tiers-monde de bien vouloir nous approvisionner en médicaments, finalement. Non, parce
que mais il n'y a pas que l'amoxicilline, il y a des médicaments très très pointus.
Sur des pathologies rares.
C'est un médicament de très grande consommation.
Et tu as énormément d'attentes, donc t'es obligé de prévoir, en fait, de commander deux fois plus.
Et certains excipients viennent que de l'Inde ou de la Chine. Et qu'il y a une carence d'excipients parce que ces pays n'en ont besoin pour eux, ne les exportent plus.
Faut-il encore durcir la loi contre le gaspillage? C'était dans Apolline Matin ce matin. Bien que des progrès aient été faits, une nouvelle proposition de loi sera déposée aujourd'hui par Carl Olive, député Renaissance des Yvelines. Elle a pour but, cette loi, d'obliger davantage de magasins à donner leurs invendus à des associations. L'élu rappelait ce matin sur RMC le coût astronomique du gaspillage en France.
Aujourd'hui encore, dans le monde, une personne sur dix a du mal à se nourrir et on s'aperçoit que encore aujourd'hui, ce gaspillage coûte 16 milliards d'euros par an et en France, on doit réduire de moitié encore. 16 milliards, c'est quasiment le budget du filet de sécurité énergétique, donc ce n'est pas rien. Moi, je vais vous dire, je suis un enfant de Coluche des années 86 et c'est vrai que quand Coluche disait « c'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim, mais ça le deviendrait si on n'y change rien », je suis dans cette droite ligne. Chacun dans ce pays a les moyens d'apporter sa petite pierre à cet immense édifice qu'est le gaspillage alimentaire.
Il a raison, Perico, faut en faire plus contre le gaspillage.
Alors, je vais aller un petit peu plus loin que lui. Si on évitait le déballage de surconsommation à laquelle nous pousse la surconsommation avec la publicité, parce qu'on nous demande de consommer et on nous explique que si nous ne consommons pas telle quantité de tel produit, on n'est pas dans le coup. Donc, on va déjà gérer, nous, notre façon de consommer et la façon de distribuer. Là, vraiment, c'est le problème de distribution. On n'est pas obligé d'acheter les pots de yaourt par 24 et les litres de lait par 12. Est-ce qu'on peut se mettre dans la tête une fois pour toutes, et c'est une nécessité planétaire, pouvons-nous consommer et produire uniquement ce dont l'humanité a besoin? On est 8 milliards depuis quelques jours.
Mais comment tu fais? Comment tu vas dire ça aux industriels?
Ah non, mais ça... Attendez, ça s'éduque, ça se décide, ça se régit. Et les industriels sont les premiers à le mettre en place. Ils auront leurs bénéfices. Ils auront leurs bénéfices sans faire de mal. Mais c'est une éducation. La consommation aujourd'hui va devenir, et c'est mon tabou depuis longtemps, les classes du goût, moi je me limite à ça, il faut apprendre à lire, à écrire, à compter et à consommer. Il faudra dire aux enfants qu'ils sont dans toutes les écoles, apprenez à consommer, apprenez à vous habiller, apprenez à rouler,
apprenez à gérer un budget. Apprenez, on en parlait encore hier dans l'émission.
À gérer un budget, à gérer le robinet d'eau, à gérer le chauffage, à gérer, voilà.
Un cours de gestion.
Mettez-vous un pull, alors le col roulé, on s'est foutu de la gueule de Le Maire, mais c'est vrai, trimballez-vous avec une couette dans votre salon, puis comme ça vous pouvez vous asseoir où vous voulez. Et s'il fait froid, mais enfin, en tout cas, il faudra gérer tout ça. Et Carl Olive, voilà. Et quant au gaspillage, 7% de ce que l'on consomme frais, non périmé, est jeté chaque année à la poubelle. 7%.
67 euros par mois et par Français de gaspillage alimentaire. Mais quand vous savez ça, et que vous entendez, après, vous mettez ça en parallèle avec les Français qui n'ont plus rien le début du mois. C'est quand même hallucinant. Il faut évidemment en faire plus.
Oui. Il a raison.
Ne serait-ce que les emballages.
Il a raison.
L'individu a sa part de responsabilité. Effectivement, il faut éduquer à des bonnes pratiques qui ne sont plus celles d'il y a 40 ans. Il y a aussi la responsabilité des structures dans lesquelles on vit, de l'industrie agroalimentaire. Effectivement, tu évoquais les emballages. C'est effectivement un vrai sujet. Il y a aussi un sujet autour des dates
de péremption.
Pas toutes des dates de péremption qui peuvent être des dates limites d'utilisation optimale, etc. Mais qui en plus ne veut pas dire qu'un produit est effectivement inconsommable. Mais il y a un vrai sujet là-dessus parce qu'en fait, c'est beaucoup soi-disant périmé, est-ce qu'on a peur?
Et là, c'est la loi.
On fait peur.
Là, c'est la loi.
Parce qu'on pousse effectivement à la consommation. Effectivement, là-dessus, il y a à la fois un travail sur les individus. On a tous notre part de responsabilité, mais ça ne suffira jamais si derrière, il n'y a pas un changement de fonctionnement, y compris de fonctionnement, notamment, je pense, à l'industrie agroalimentaire, mais pas que.
Alors, vous avez raison. Vous faites hyper gaffe, vous, Emmanuel.
Bien sûr que je fais hyper gaffe. Et surtout, moi, ce que je voulais juste saluer, parce que tout ce que vous avez dit, je suis d'accord avec, saluer les start-up qui se mettent en place depuis quelques temps déjà pour nous proposer. C'est là que je cherchais notamment, mais ils ne sont pas tout seuls, pour poser des paniers de produits bientôt, a priori périmés, mais finalement pas tant que ça, et auxquels tu peux avoir accès pour moins cher, et au moins que ça
les grandes surfaces le font, vous avez un local avec à 2 ou à J-2, J-3 de péremption, on met 50%. Sur c'est le ça, produit,
oui. Et ça permet à des gens.
Un endroit dans le magasin. Un jour, j'ai eu mauvaise conscience, j'ai pris quelque chose dont j'avais besoin, et je l'ai pris dans le panier à réduction. Et j'avais mauvaise conscience, mais bon,
Ah non, au contraire.
Vous n'avez pas été malade?
Ah non, j'avais mauvaise conscience d'avoir bénéficié d'une réduction.
Là. Ah oui, alors que t'en avais pas forcément.
Oui, mais
faut
que ça parte. Oui, mais au moins ça part. Enfin voilà, il vaut mieux que ça parte chez toi qu'à la poubelle.
Loi du député.
Exactement. Donc bravo à Carl Olive pour cette loi. Dans un instant, le journal décalé de Paul Lassen qui a fait le tour, rien que pour nous, de la presse quotidienne régionale. Et puis à 14h, on parlera du retour des Michel. Michel Sardou, Michel Polnareff, une tournée, un nouvel album. Est-ce que c'est retour des deux Michel? Vous trouvez ça formidable ou pathétique? On attend vos réactions. Au 32-16, à tout de suite dans Estelle Midi.
C'est le retour d'âge.
RMC, Estelle Midi.